moi-même et je m'offre tout entier entre ses mains. C'est une des facettes de la prière. Et dans ces moments-là, nous rencontrons le Seigneur d'une façon particulière. Nous nous abandonnons à lui. C'est un temps de rencontre. C'est un moment privilégié où nous élevons notre âme à lui. Et où nous avons ce tête-à-tête merveilleux et si bénissant avec lui. Pour ce soir, Évangile de Matthieu, si vous voulez bien, Matthieu chapitre 17. Nous considérons régulièrement différentes facettes de la vie de prière, d'une vie de prière qui nécessairement est inépuisable, parce que toujours renouvelée, parce que toujours différente, il y a toujours des choses nouvelles, anciennes mais qui sont aussi nouvelles, à expérimenter, à réexpérimenter encore. Et ce soir, j'ai à cœur d'aborder avec vous cette facette de la prière. J'ai intitulé le message « Transformé par la prière ». Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, un récit extrêmement important qui se trouve dans les trois évangiles synoptiques. Synoptique signifie des points de vue, des angles d'attaque différents. Matthieu, Marc et Luc relatent tous les trois ce récit, ce moment de la transfiguration. C'est un moment exceptionnel, extrêmement important. Et déjà, quand un texte est dans un évangile, c'est important. Mais quand il est dans deux, voire trois évangiles, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement important ici. Il y a une révélation, il y a quelque chose qui a profondément marqué les disciples, au point que tous en ont fait leur rapport, leur résumé. Matthieu 17, verset 1er. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur !» Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Amen. Les disciples reçoivent ici pourquoi certains sont montés et pas d'autres. Le Seigneur savait ce qu'il devait faire, avec qui il devait le faire. Mais ceux qui sont à l'écart, il faut que nous comprenions qu'il y a des dimensions de révélation que nous pouvons recevoir avec la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, des révélations particulières mais qui ne peuvent être reçues que lorsque nous sommes dans certains contextes. Il y a différentes facettes de la révélation de Jésus, différentes facettes de sa gloire, différentes facettes de ses actions. Et là-bas, en bas, c'est vrai, lorsqu'ils voyaient Jésus agir, guérir, nourrir, délivrer, consoler, etc., ils ont vu des choses les uns et les autres extraordinaires. Mais Pierre, Jacques et Jean, à ce moment-là, se sont laissés conduire à l'écart sur une haute montagne. Et c'est dans ces conditions, et seulement dans ces conditions, qu'ils vont pouvoir expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Ils vont voir Jésus qui va littéralement rayonner de la gloire du Père. Luc 9, que nous n'avons pas lu, précise « Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. » Ce que nous avons lu dans Matthieu 17, il fut transfiguré, dans le grec littéralement « métamorphou », transformé, métamorphosé, et son visage resplendit comme le soleil. Et puis, ils ne virent que Jésus seul, qui est aussi quelque chose d'extraordinaire dans ce passage, mais ce n'est pas mon sujet ce soir. On comprend bien que Jésus est l'accomplissement de la loi, il est l'accomplissement des prophètes, il est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament, les types, les récits, les symboles, tout devait absolument, les disciples n'avaient pas tout à fait compris. Parfois, on est peut-être un peu comme les disciples, on est encore trop attaché à certains rites, à des traditions, à une loi, à des aspects de la loi mosaïque, etc. Mais en réalité, alors que lui, Pierre, il voulait garder tout le monde, il voulait garder Élie, il voulait garder Jésus, il voulait garder Moïse. Mais en réalité, Élie et Moïse disparaissent parce que devant la majesté divine, tout le monde s'efface. Et il ne reste que Jésus et Jésus seulement, parce qu'il est l'accomplissement de tous les récits, de tous les symboles, de toutes les prophéties, de toute la typologie de l'Ancien Testament. Il est l'accomplissement de la loi, il est la finalité de la loi, dira Paul. Et c'est normal, ils ne virent que Jésus seul, mais ce serait l'objet de toute une étude, mais ce n'est pas mon but ce soir. Ce soir, c'est de voir avec vous, vous pouvez mettre la deuxième et dernière image, merci beaucoup. C'est de voir avec vous les conditions de la révélation, et de voir dans quelle mesure ça doit nous concerner et nous impacter. Les conditions de la révélation, ils se sont laissés conduire, ils se sont laissés attirer à l'écart, ils ont su se mettre à part. Il y a certaines révélations, bien-aimées, du Seigneur que nous pouvons vivre dans les circonstances pratiques de la vie quotidienne. Mais il existe des dimensions de révélation. Je parle de révélation, je ne parle pas de visuel. Un malade est guéri, c'est extraordinaire, merci Seigneur, mais ce n'est pas une révélation. Je parle de révélation spirituelle dans l'être intérieur. Il est des dimensions de la gloire et de la puissance de Jésus dans ce qu'il est, dans ce qu'il dégage de son être, qui ne peuvent nous être accordées que lorsque nous savons nous mettre à l'écart. Savoir se mettre à part. Il faut à un moment ou à un autre, chacun s'organise comme il veut, avec son temps, avec son agenda, avec les exigences de cette terre, mais il faut absolument faire taire les bruits, l'agitation des choses terrestres. C'est normal, c'est la vie, on est toujours sollicité, ça sera, ça a été, ce sera toujours. On est sollicité par des tas de choses. On est sollicité, pour ne pas dire même parfois accaparé, par des tas de gens et des tas de choses qui sont plus ou moins légitimes. Et c'est déjà un combat en soi de savoir se détacher, de fixer les véritables priorités, de savoir se détacher des préoccupations humaines et matérielles, parce que ce que Jésus va leur révéler, ce que Jésus veut te révéler, tu ne l'auras pas dans le tumulte, tu ne l'auras pas dans les activités quotidiennes, tu ne les auras même pas au travers d'une guérison, tu ne les auras pas au travers d'un exaucement ou d'une bénédiction. Ce que Jésus va leur révéler à ce moment-là, ce qu'il veut te révéler et me révéler, ils vont le voir en haut et en haut seulement, et pas dans la réalité de la vie quotidienne accaparée par les choses terrestres. À l'écart, sur une haute montagne, ce qui me parle nécessairement de « puisque je monte », je me détache des choses d'en bas de la terre, ce qui me parle de communion, ce qui me parle de proximité, puisque je me rapproche. Et il y a réellement ici un coup, il y a forcément une ascension. Il est indispensable dans nos vies que nous ayons ces moments bénis, ces moments privilégiés où nos âmes savent couper avec tout ce qui est terrestre. Et puis vont commencer à prendre de l'altitude. La prière, c'est pas seulement, même si ça en fait pleinement partie, parce que Dieu a promis qu'il pourvoirait à tout et que tout le reste me serait donné par-dessus, mais la prière, c'est mon âme qui va se détacher de tout ça, qui va focaliser, centrer son attention sur lui, et mon âme qui va commencer à prendre de l'altitude, pardonnez-moi, mais bien souvent, notre âme, elle a besoin de décoller du plancher des vaches. Elle a besoin de décoller du ras des pâquerettes. Et la prière dont il est question ici, parce que vous l'avez compris depuis le temps, il y a plusieurs facettes à la prière et à la vie de prière. Et puis elles sont toutes bénissantes, elles sont toutes importantes, mais celle-ci est largement au-dessus, elle est primordiale, parce que ce n'est pas la prière qui va être orientée vers l'humain, vers le moi, vers les besoins qui sont humains, terrestres, qui sont légitimes, que le Seigneur tient dans sa main et auquel il a promis de répondre. Ce n'est pas ça le souci. Mais ce moment privilégié où j'élève mon âme à Dieu, où je vais avoir un temps de rencontre avec lui, je suis dans un face-à-face, je suis dans un cœur à cœur. Ça, ce besoin, ça, cette personne, cette préoccupation, tout ça, Seigneur, c'est bon, ça fait un moment que je t'en parle. Tu sais, tu connais. Seigneur, j'ai besoin d'un face-à-face avec toi. J'ai besoin d'un cœur à cœur. J'ai besoin de te rencontrer tout à nouveau, d'une façon nouvelle et vivante. Et nous aussi, nous pouvons vivre ce genre de révélation. Nous pouvons les vivre évidemment en esprit, pas avec nos yeux de chair, pas avec les yeux humains, mais avec des yeux, un regard spirituel. Nous le pouvons, et même nous en avons réellement besoin, pour ne pas dire désespérément besoin. Nous sommes des disciples de Jésus. Les disciples, Pierre, Jacques et Jean, ils en avaient vu déjà un paquet. Ils avaient déjà vu des trucs. Et ils vont en voir encore bien d'autres après. Mais là, ils reçoivent réellement un Everest de révélation qui va les marquer jusqu'à la fin de leur jour, puisque Pierre, dans ses épîtres, parlera de ce moment glorieux où il a vu la gloire de Jésus. Et ces révélations, nous en avons réellement besoin. Alors évidemment, c'est en esprit. Hébreux 2,9 dit bien, nous le contemplons, ce Jésus. Ce Jésus qui a été abaissé pour un temps, en dessous des anges, nous le contemplons maintenant, couronné de gloire et d'honneur. Et évidemment, à ce moment-là, au moment où l'auteur, on ne sait pas qui c'est le Saint-Esprit, mais évidemment, au moment, on ne sait pas quel est l'auteur humain, mais au moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit cela, c'est forcément spirituel, ça fait largement, longtemps, plusieurs années que le Seigneur est remonté au ciel et qu'il n'est plus accessible à des yeux de chair. Et cette révélation-là a des conséquences réellement béni sur l'ensemble de ma vie chrétienne, sur l'ensemble de ma vie de prière. Quand j'ai vraiment non plus, vous savez, bien aimé, c'est pas méchant ce que je dis, mais je suis confronté aux mêmes luttes et aux mêmes combats que vous, et nous avons régulièrement beaucoup de choses dans la tête. Et le Seigneur, lui, veut mettre un maximum de choses dans notre cœur en profondeur. Et il ne veut pas une foi de tête, il ne veut pas une connaissance intellectuelle, mais il veut une vie de révélation par le Saint-Esprit dans nos âmes, dans notre être intérieur. Et quand nous avons ce genre de révélation, ce genre de contact avec le Maître, il y a toutes sortes de conséquences bénies, bénéfiques dans nos vies. En l'occurrence, quand j'ai la révélation de Jésus dans sa gloire, dans son règne, dans sa toute-puissance, quand je le contemple dans sa majesté, que je vois que jamais rien ne l'inquiète, quand je le vois avec toute ressource, toute solution, tout pouvoir dans sa grandeur, au-dessus des cieux, au-dessus de tout, quand je le considère et que mon âme reçoit la révélation spirituellement de ce Dieu qui est incomparable. Évidemment, je vais prier avec une autre assurance. Ma vie de prière va prendre une autre dimension. Je prie différemment. J'ai une autre paix, j'ai une autre joie, j'ai une autre assurance. Les inquiétudes, les troubles, les tourments, les choses, les angoisses, tout ça, ça disparaît. Parce que j'ai une telle assurance, parce que j'ai la révélation du Dieu que je prie, il y a toutes sortes de conséquences puissantes dans ma vie. Mais celle sur laquelle je veux absolument insister ce soir, parce que c'est le message que Jésus fait passer à ses disciples et qu'il nous fait passer dans ce texte, c'est que ça va, ce genre de révélation, c'est dans ces moments-là que notre vie bien-aimée, notre caractère, ce que nous sommes, qui nous sommes, notre vie est transformée et qu'elle est métamorphosée. L'un des buts fondamentaux de la prière, c'est de changer celui qui prie. Avant de changer les circonstances, la prière devrait me changer, moi. Avant de changer, avant d'obtenir, avant d'être exaucé, avant la bénédiction, et encore une fois, le Seigneur n'a rien contre tout ça, il l'a promis lui-même, il y veille lui-même, il y pourvoit lui-même. Mais il y a une facette ici qui est plus précieuse que toutes les autres. Un des objectifs fondamentaux de la prière, on l'a chanté, c'est « Seigneur, je m'offre. Seigneur, je te donne tout, parce que je veux être changé et transformé. » Et si, malgré ma fidélité dans la prière, si malgré mes prières régulières, si celui qui prie ne progresse pas dans la ressemblance au caractère de Christ, ça ne veut pas dire que ce qu'il prie n'est pas bon. Hein. Ça veut dire qu'il y a une énorme lacune dans la vie de prière. Parce que la prière a pour but premier de changer celui qui prie. Changer l'intérieur avant de changer l'extérieur. Me changer moi avant de changer mon patron. Me changer moi, il sait pourquoi je dis ça. Me changer moi avant de changer mon mari ou ma femme. Me changer moi avant de changer, avant d'obtenir ce que vous voulez. Un des buts essentiels de la prière, c'est d'abord de changer celui qui prie. Romains 12, 2 Corinthiens 3, 18 sont des textes que je fais ressortir ici parce qu'ils reprennent dans l'original grec le même verbe exactement, le même verbe que « il fut transfiguré devant leurs yeux, métamorphou ». Romains 12, qui est ce qu'on appelle communément le chapitre de la consécration totale, c'est de lui, par lui, pour lui, Jésus, que sont toutes choses. En conséquence, dit Paul, je vous exhorte, je vous presse, frères, je vous presse par les compassions à cause de la base de l'amour de Dieu, à cause de ses entrailles d'amour et de miséricorde. Je vous presse de vous offrir tout entier à lui parce que c'est ça le véritable culte. C'est ça le culte raisonnable, c'est l'offrande de ma vie entièrement abandonnée. Je te donne tout, c'est exactement ça. Soyez transformés. Métamorphosez, offrez-vous tout entier à Dieu et vous serez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous connaissez certainement ce passage, sinon vous irez voir avec la référence. 2 Corinthiens 3, 18, là aussi quand Paul parle aux Corinthiens, ça fait bien longtemps que Jésus est remonté au ciel, on parle de spirituel, on ne parle plus de voir un Jésus en chair et en os. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Pourquoi le visage découvert? Dans le contexte, il fait allusion à Moïse qui était obligé de se voiler la face parce qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Il parle du visage découvert parce que ceux qui se sont authentiquement convertis au Seigneur, le voile qui est sur leur cœur est enlevé. Il parle aussi de visage découvert parce que nous aujourd'hui, nous avons la révélation complète. Nous avons accès à la révélation totale. Les Hébreux dans le désert n'avaient pas accès à cela. Nous dont le visage découvert, c'est pour ça qu'il parle du visage découvert, reflète, renvoie la gloire du Seigneur, l'image du Seigneur. Nous sommes transformés, c'est le même verbe que transfiguré dans Matthieu 17, même verbe que Romains 12, même verbe que 2 Corinthiens 3. Nous sommes transformés, métamorphosés littéralement, en la même image. La même image spirituelle que celle de Jésus. De gloire en gloire, parce que je progresse sur cette voie, par le Seigneur l'Esprit. Et là, en réalité, le message, à la lumière des écrits de l'apôtre Paul, le message est très clair. Jésus véhicule un message à ses disciples qui ont su se mettre à part, à l'écart avec lui sur cette haute montagne. Et tout comme Jésus a rayonné, c'est comme s'il leur disait, vous voyez, là vous me voyez rayonner de la gloire du Père. Mais viens un jour où par le Saint-Esprit en vous, c'est vous qui rayonnerez de ma gloire. Ah, le Seigneur, il ne fait pas un peu petit, hein. Il ne fait pas à moitié. Alors, pas un rayonnement au sens physique. Quoique, on en parlera. Mais au sens spirituel, nous sommes appelés nous-mêmes à être métamorphosés, à être toujours plus à son image. Et c'est ce que une vie de prière authentique, une vie de communion et d'intimité va pouvoir produire en moi. Une vie qui est changée à l'intérieur, une vie même qui est changée de l'intérieur par la parole et le Saint-Esprit. Et ça, c'est pas, ici, il n'est pas question transformer, trans, le changement. Il n'est pas question d'amélioration. Il n'est pas question de faire un travail sur soi. Vous savez, des fois on entend ça. Je vais faire je suis conscient, il faut que je fasse un travail sur moi. Non, fais pas de travail sur toi parce que tu ne vas pas y arriver. C'est mort. On a des expressions, on a des clichés, même dans notre façon de parler, dans nos milieux évangéliques, qui nous tuent et qui sont anti-bibliques. Non, tu ne fais pas un travail sur toi et ça ne sert à rien, tu ne vas pas y arriver. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te transformer. C'est tout. La vie chrétienne C'est ça qui est extraordinaire, c'est que la vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Ce n'est pas l'ancienne qui cherche à faire des efforts. Ce n'est pas l'ancienne qui va essayer de produire quelque chose. Je ne suis pas, pardon, dans la pensée de Dieu, je ne suis pas appelé à être une version améliorée de moi-même. Le Seigneur n'a que faire d'avoir un Stéphane, un Julien, un Yves, un Karim, version 2.0. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Dieu ne veut pas une version améliorée de moi-même. Et c'est ça. Toute l'espérance, le bonheur, le message, c'est que la vie chrétienne, ce n'est pas l'ancienne qui va être améliorée, une vie dans laquelle je vais essayer de, et à force d'échecs, et, bon, etc. La vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Une vie radicalement différente. La vie chrétienne, c'est une vie trans-changement, métamorphosée. Une vie trans-changement. Formé, alors c'est certes en formation, mais transformé, un changement. Et c'est une vie nouvelle, ce qui implique, pour moi, si j'ai compris l'objectif de Dieu, si j'ai compris la volonté de Jésus, si j'ai compris la volonté du Père, qui veut avoir un grand nombre de fils qui soient semblables à l'image du Fils unique, si j'ai compris ces choses, la vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Donc, tout est nouveau. Avec un caractère nouveau, avec une mentalité nouvelle. J'ai des, par la grâce de Dieu, des attributs nouveaux, des sentiments qui sont nouveaux, des pensées que je n'avais pas avant. J'ai des pensées nouvelles, j'ai des paroles nouvelles. J'ai, par la grâce de Dieu, des réactions. Je réagis, je me comporte, j'ai des attitudes qui sont nouvelles. Donc j'ai aussi des choix nouveaux, je fixe des priorités nouvelles parce que dans la pensée de Dieu, la vie chrétienne, être chrétien, tout est nouveau. Le but premier de ma vie chrétienne, le but premier de ma conversion, de ma nouvelle naissance, c'est quoi ? Ben, c'est pas compliqué, c'est de refléter Christ, c'est de rayonner de lui, c'est de me rapprocher toujours plus de son image, parce que Dieu veut avoir un grand nombre de fils et de filles qui soient semblables à l'image de son fils. Et ça, c'est l'objectif numéro un, logiquement, de n'importe quel disciple de Jésus. La priorité absolue de ma vie, mon souci logiquement prioritaire, c'est être toujours de plus en plus comme Jésus et que le plus grand nombre soit sauvé. C'est ça la priorité de la vie chrétienne. Me rapprocher toujours plus de son image et renvoyer son image autour de moi. Donc là, il ne peut pas être question d'amélioration. Il ne peut pas être question d'effort personnel, ce qui serait charnel. Ça, c'est la religion qui s'en charge. La religion, elle change l'extérieur. La religion, elle te dit, habille-toi comme ci, t'habilles pas comme ça. Bon, ben, il faut être correct, on est d'accord. Mais la religion, elle change l'extérieur. La religion, elle te dit, mange ça. Ah non, mange pas ça. Pasteur, j'ai le droit de manger de ça. Ben, tu lis l'Épître aux Romains, tu vas tout de suite comprendre. La religion, la psychologie évangélique, l'évangile psychologique parfois, te dit, oh, fais un effort. Il faudrait faire un travail sur toi. Non. Je suis transformé par la grâce de Dieu. Je ne peux pas faire un travail sur moi, je ne peux pas m'améliorer. Des fois, on dit, vous connaissez l'expression, on dit, « Hey, quand même, tu pourrais faire un effort, tu pourrais mettre un peu d'eau dans ton vin. » Vous connaissez l'expression ? Il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Mais le Seigneur, il ne met pas de l'eau dans le vin, lui. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur ? Il change l'eau en vin, parce que tout est nouveau. Et le Seigneur, il dit, « Non, on ne mettra pas ça dans de vieilles outres. » Je ne veux pas des outres rafistolées. Je ne veux pas des vases rafistolés. Dans les vieilles outres, ça ne marchera pas. Je veux des outres neuves. Et dans les outres neuves, je déverserai le vin nouveau. Et là, effectivement, tout est nouveau. L'outre, le contenant et le contenu. Merci Seigneur. Mais tant que j'essaye de faire un travail sur moi, c'est voué à l'échec. C'est logique. Dieu est trop saint. Dieu est trop grand. Dieu est trop parfait. Personne ne peut imiter la perfection de Dieu. Même avec les meilleurs efforts du monde. Personne ne peut reproduire sa sainteté. Sa sainteté, sa sainteté, c'est la santé spirituelle et morale de Dieu. Sa sainteté. Personne ne peut reproduire son amour. On n'imite pas sa joie. On ne peut pas imiter sa paix. On n'imite pas sa miséricorde, sa compassion, sa patience, sa sagesse, sa fidélité, sa douceur, sa bonté, sa prévenance, sa tempérance, sa bienveillance. Tout ça, ça dépasse et de loin. Tout ce que je peux essayer de faire, c'est mort, 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 ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine, j'y arriverai pas. Il y a des dimensions dans le cœur de Dieu qui sont évidemment sujets d'adoration, des attributs qui sont tellement élevés, trop élevés, beaucoup trop élevés. Ce n'est pas possible. Ce que Dieu est, Père, Fils, Esprit, est inimitable, c'est inaccessible, la barre est beaucoup trop haute, c'est mort, 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 c'est perdu d'avance, c'est voué à l'échec et ce serait une folie d'essayer de produire quoi que ce soit pour essayer de se donner bonne conscience. C'est voué à l'échec. Et je pense logiquement que tôt ou tard nous l'avons tous expérimenté, nous l'avons tous ressenti. Nous nous sommes, puis si vous me dites, ah non, moi jamais, t'inquiète pas, ça va t'arriver plus vite que tu ne penses. Nous nous sommes tous sentis incapables, sales, miséreux, misérables, disqualifiés. On a essayé, et pourtant, toujours tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, ça s'est soldé par un échec. Pourquoi ? Parce que le secret est dans l'intimité de Jésus. À l'écart, en tête à tête avec lui, seul sur une haute montagne. C'est là que ça va se passer. C'est là que Jésus a rayonné de la gloire du Père. C'est là que je peux être transformé et rayonner moi-même, être métamorphosé. Ça se passe dans l'intimité pour nous, très concrètement, de l'Esprit et de la parole. C'est lui, le Saint-Esprit, qui utilise la parole qu'il a inspirée, pour reproduire dans mon être intérieur, pas dans ma tête, pour reproduire dans mon être intérieur l'image parfaite de Jésus. Des fois, ça fait mal, parce que le divin sculpteur prend un marteau. Dieu dit à Jérémie, ma parole n'est-elle pas un marteau pour briser le roc de ton cœur ? Et il prend le marteau, il prend le burin. Je tape pas sur le micro parce que sinon... C'est lui qui le fait. C'est elle, la parole, entre les mains de l'Esprit qui me sanctifie. C'est lui, elle, et la parole, et l'Esprit qui me ramène au modèle suprême. C'est lui qui le fait en moi. Je ne me transforme pas. Je suis transformé. Quand j'étais dans la police, en banlieue parisienne, j'ai rencontré toutes sortes de gens pas fréquentables et comme je vous l'avais dit, pendant une période de ma vie, j'étais vendu à la colère. Je sentais des sentiments mauvais en moi qui montaient, des sentiments dont je rougirais encore aujourd'hui, même si le Seigneur a tout effacé, mais des sentiments dont je ne suis pas fier et dont je n'étais pas fier, mais c'était plus fort que moi. Et j'essayais de me contenir, j'essayais de me canaliser. Mais quand des gens ont tendance vraiment à me chauffer, moi j'essayais d'être un bon chrétien, j'essayais de me canaliser, j'essayais d'être bien, j'essayais de me contenir, mais comme en face ils avaient le chic pour monter et monter. Il y avait des moments, on allait s'expliquer dans le couloir de la mort, on réglait les choses comme à la Moïse, bim bam boum, maintenant c'est bon. Puis je rentrais. Puis j'étais en colère, j'étais fâché, j'étais agacé, j'avais des sentiments qui montaient en moi. Puis en même temps, j'étais partagé entre ces sentiments. Puis un sentiment de honte. Parce que je me disais, si mes frères et sœurs, quand je vais à l'église dimanche, s'ils savaient, quand je vais à Phila, s'ils savaient s'il savait ce que je fais la semaine, s'il savait, misérable que je suis vendu au péché, je suis esclave du péché, qui va me délivrer de ce corps de misère ? Et pendant des semaines, pas des semaines, ça n'a pas duré tant que ça, mais pendant un moment, il a fallu que, jusqu'à ce que je comprenne, il a d'abord fallu que je comprenne, et puis j'ai crié à Dieu. Parce que j'avais des sentiments mauvais, parce que j'étais esclave de la colère, j'étais pris par ça. Puis un jour, c'est seulement dans l'intimité de Jésus, quand j'ai compris qu'il n'attendait qu'une seule chose. Il n'attendait pas que je sois un bon petit chrétien. Il n'attendait pas que je pardonne. Je n'étais pas capable de. Il fallait que je comprenne. Il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne. Il fallait que je vienne encore et que je lui laisse le temps de faire ce qu'il avait en moi. Puis un jour, alors que en 12 ans de nuit, 12 ans de service dans la banlieue chaude, jamais j'avais, un collègue avait été blessé, jamais j'avais été blessé. J'avais toujours tout géré, c'était ma fierté. Puis un jour, patatrac, il y a un gars qui est là, on le ramène au commissariat, on lui notifie ses droits, on le détache pour l'emmener dans la cellule. Puis au moment où on le détache, il commence à rentrer dans une colère noire. Et puis là, il commence à vociférer, il s'en prend aux uns, aux autres. Et puis, dans le moment où il a fallu le contenir, ma main est cassée. Et je suis obligé, pendant 5 mois d'arrêt, il y a des arrêts qui sont salutaires, hein, frère. Parce que Dieu nous attire dans sa présence, hein, on est bien d'accord. 5 mois d'arrêt sur l'instant, j'ai dit « Ah !» Puis après, j'ai dit « Ah, oh, merci Seigneur, super !» 5 mois près du Seigneur. Vous savez, nos épreuves bien-aimées, soit vous les considérez comme une injustice, ou alors vous les considérez comme une grâce de Dieu pour vous permettre d'aller plus haut. Hein. C'est vous qui voyez. Et alors que pendant 5 mois, j'avais la main cassée, au moment où cet événement est arrivé, j'ai vu mes collègues, parce qu'ils savaient comment je réagissais et comment je gérais les problèmes. Et j'ai vu mes collègues commencer à arriver sur lui et vouloir en découdre dans les cages de garde à vue. Et là, j'ai dit, non, arrêtez, ne touchez pas, faites rien. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais tu plaisantes ou quoi? Il faut qu'on règle cette histoire. Je dis, non, non, arrêtez. Et j'avais la main cassée, j'avais l'os qui sortait. Et je dis, non, non, arrêtez, touchez pas, ne touchez pas, laissez-le, on ne veut pas de ça, pas de ça. Et puis, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui là? T'es pas comme d'hab. Puis c'est seulement après que j'ai compris. J'ai regardé mon cœur. J'étais libre. Je lui en voulais pas. Je lui en voulais plus. J'avais l'os qui sortait, je l'ai regardé, je l'ai aimé. Merci Seigneur, j'avais été transformé. Nous sommes transformés par le Seigneur l'Esprit. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait en moi. Tout est histoire en vérité, je vais terminer avec ça bien aimé, on va prier. Tout est histoire de qualité, de communion. Tout est qualité, histoire de qualité de relation. Tout est histoire de qualité de greffe. Si le sarment est bien greffé au cep qu'est Jésus, la sève du Saint-Esprit peut couler et faire son œuvre. Elle passe dans le sarment et du sarment va surgir un fruit. Mais le sarment n'a rien fait. D'accord ? C'est la sève qui est passée et la responsabilité du sarment, c'est de rester bien connecté. De sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de sève. Et à ce moment-là, le fruit peut passer. Le pardon, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la maîtrise de soi, etc. etc. Et l'amour, et, enfin de façon générale, le fruit de l'esprit, l'amour bien sûr. Et cette qualité de relation, cette qualité d'intimité, c'est cette intimité que Jésus a enseignée à ses disciples à ce moment-là. Cette facette de la prière où nous pouvons le contempler, nous pouvons réellement l'adorer, où nous sommes transformés par lui de progrès en progrès, de gloire en gloire. Mais ça ne se fait que les yeux dans les yeux avec Jésus, dans une relation d'amour. Nous avons réellement besoin de révélation, nous avons besoin de l'adorer, besoin de le contempler. C'est un grand principe de la vie chrétienne. Frères et sœurs, nous sommes ce que nous contemplons. Point. ce que nous contemplons, c'est ce que nous allons devenir. C'est aussi simple que ça. Si tu contemples tes ennemis, tu finiras comme tes ennemis. Si tu contemples les problèmes, les difficultés, tu vas sombrer, tu vas toujours dépasser. Si tu contemples ton passé, tu finiras nostalgique ou aigri. Dans les deux cas de figure, ce n'est pas bon. Mais si tu le contemples, lui, si tu sais prendre le temps de l'adorer, lui, et d'être à ses pieds, c'est lui qui va te changer. C'est une œuvre puissante dans le cœur, un changement tel à l'intérieur qu'il se voit à l'extérieur. Et je termine vraiment avec ça, je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait en parler deux secondes. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil. Alors évidemment, nous sommes transformés par l'esprit et la parole à l'intérieur. Il n'est pas question non plus que Jésus alors a manifesté quelque chose de physique. Pour nous, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Quoique, on peut lire beaucoup de choses sur les visages. Un visage peut être fermé. Un visage peut être sombre. Sur un visage, on peut lire de l'incompréhension. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Sur un visage, on peut lire du désaccord. Sur un visage, on peut lire de la contrariété, de l'agacement, de la fatigue. Vous savez, si Jeff vient me voir et qu'il me dit quelque chose et que je regarde Julien, voilà, ben en deux secondes, vous avez tout de suite compris de ce que je pense de lui, de ce qu'il vient de me dire. Parce que nos visages expriment tellement de choses. Et sur un visage, on peut lire de la tristesse. On lit parfois du deuil sur des visages. On lit de la colère sur les visages. On lit de la suspicion. On peut voir des gens qui sont songeurs, qui sont pensifs, qui sont inquiets, qui sont tristes. On voit des gens qui sont absents. L'âme n'est pas là. Mais quand on est transformé de l'intérieur, ce que l'Esprit de Dieu fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Le visage s'ouvre, il devient plus lumineux, il devient joyeux, il devient paisible. Quel est donc le secret d'une telle métamorphose? Le secret d'un tel rayonnement? Tout est question de relation. C'est une facette spécifique de la prière dans laquelle nous sommes centrés sur lui et uniquement sur lui et plus sur nous et sur nos besoins. C'est l'œuvre de sa grâce en nous. Et tout ça, bien aimé, ça ne dépend que de nous. Le Saint-Esprit a la capacité, moi je ne l'ai pas. Par contre, moi j'ai la volonté. Si ma volonté rencontre sa capacité, alors il va se passer des choses extraordinaires, d'abord en moi. Tout dépend de mon degré de prise de conscience et tout dépend de mon investissement personnel, mais le message est là, il est clair. Tout comme Jésus a rayonné de la gloire du Père, nous sommes appelés, nous aussi, à être métamorphosés, transformés, toujours plus à son image. Et nous aussi, nous pouvons être rayonnants de lui, transformés par la prière. Amen. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ta grâce immense.